Lorsque pendant 3 ans, Jésus parcourut la Palestine, parlant inlassablement à la foule avide, il y avait en lui vraiment de quoi attirer l'attention des plus indifférents. Il y avait tout d'abord sa manière de parler, qui contrastait nettement avec la méthode traditionnelle des scribes. Il parlait d'une manière directe et avec autorité, tout en demeurant à la fois simple et pénétrant. On se marchait parfois les uns sur les autres pour venir l'écouter. Il y avait aussi ces miracles qui plongeaient les témoins dans l'étonnement le plus profond. De tous les coins du pays, on lui amenait des malades pour qu'il les guérît. Mais ce qui surprenait encore plus que ces miracles, plus que sa méthode pédagogique, c'était son message. On se penche souvent sur le Jésus historique. On discute son personnage, l'influence qu'il a eue sur le monde, etc. Mais on a peut-être tendance à oublier que ce qui fait ce personnage, ce qui le situe par rapport au reste des hommes, ce qui nous permet en somme de l'évaluer, c'est ce qu'il a dit. Nous avons souvent souligné le caractère surprenant, effarant même, de ses déclarations. Ce ne sont pas de vagues principes qu'il enseigne. À l'entendre, il enseigne la vérité. Bien plus, il dit que la vérité, c'est lui-même. Il annonce qu'il vient du Père qui est dans les cieux et qu'il retournera auprès de lui lorsque sa mission aura été remplie. Il déclare posséder le pouvoir de la vie, que ceux qui lui font confiance et qui croient en lui ne mourront jamais, qu'il est venu comme une lumière dans le monde pour dissiper ses ténèbres, comme un sauveur pour chercher et trouver ce qui était perdu. Il souligne surtout que le salut des hommes dépend de l'accueil qu'ils réserveront à ses paroles. Car lorsqu'il parle, ce n'est pas tant pour communiquer avec les hommes que pour leur communiquer un message, leur indiquer un chemin, leur montrer la réalité de l'invisible, les inciter à l'action. S'ils font de ces paroles la norme de leur existence, le principe de leur vie, rien ne pourra les ébranler, ni même les assauts furieux du torrent de la mort, car ils auront bâti sur le roc. Mais celui qui rejette ces paroles est comme un homme qui refuse de se saisir de la corde qui pourrait le sauver, comme un bâtisseur insensé qui construit sur le sable et dont le travail est voué d'avance à la ruine. « Celui qui me rejette, dit-il, et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » On avouera qu'il y a dans ces paroles quelque chose de définitif, une sorte d'ultimatum, et l'on comprend la crainte respectueuse des serviteurs du Sanhédrin, mis en demeure d'arrêter ce Nazaréen, et qui s'excusèrent de ne pas l'avoir fait, ou plutôt de n'avoir pas osé le faire, parce que jamais homme n'a parlé comme parle cet homme-là. Qui était-il réellement? C'est la question que se posent tous ceux qui refusent de croire, a priori, ce qu'il dit de lui-même. Ils cherchent à percer, derrière ses déclarations, sa véritable identité. Ils vont même jusqu'à le soumettre à un examen psychiatrique. Nous n'allons pas les suivre aujourd'hui dans de tels sentiers. Je vous propose plutôt de tourner les regards vers ce Nazaréen tel qu'il se présente à nous face à la mort. La mort a souvent été le test suprême des affirmations et des prétentions de toute une vie. Plus d'un incroyant, plus d'un athée a tremblé devant elle. Elle a réduit plus d'une assurance arrogante et confondu plus d'un imposteur. Les témoins de la crucifixion que sont les évangiles nous brossent la scène à grands traits d'un réalisme poignant. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'est à ce moment qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce fut la première des quelques paroles qu'il prononce sur la croix. Et l'on retrouve dans ce cri, en face de la mort, la même assurance, la même miséricorde, le même Jésus. Il s'adresse à son Père, celui qu'il a toujours invoqué. À l'heure de la mort, il ne le désavoue pas. Il se déclare encore et toujours le Fils de Dieu. Et puis l'on retrouve aussi celui qui a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, le grand Seigneur de l'amour qui pardonne et qui cherche à faire du bien. » La seconde parole de la croix est prononcée au milieu des insultes et des moqueries. proféré par les chefs du peuple, par les soldats romains et même par l'un des deux brigands, crucifié comme lui. Mais l'autre supplicié se repent et demande au Christ qu'il se souvienne de lui lorsqu'il viendra dans son règne. Et Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans cette affirmation, l'on reconnaît inchangé celui qui est venu chercher ce qui était perdu, guérir ce qui était malade, l'auteur de la parabole du fils prodigue qui accorde tant de prix au repentir sincère. Puis, baissant les yeux, Jésus voit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Nous ne tirerons de ces paroles que ce qu'elles expriment. Une tendre sollicitude envers cette femme qui voit là, crucifiée, la chair de sa chair. Il la confie à l'affection de l'apôtre Jean. Le texte ajoute d'ailleurs aussitôt que dès ce moment le disciple l'a pris chez lui. Après 3 heures d'agonie, alors que des ténèbres s'installent sur la terre, le crucifié pousse un cri déchirant, le cri d'angoisse d'un être seul devant l'épreuve suprême. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la 4e fois qu'il parle depuis qu'il a été élevé sur sa croix. Il souffre dans son corps total et dans son être intérieur qui porte en ce moment tous les péchés du monde. En fait, il s'identifie à tous les pécheurs du monde et mesure tout l'éloignement que le péché peut provoquer. Dans ce cri, il est encore lui-même, car encore il recherche la communion avec celui qu'il a toujours appelé son Père. Ses ennemis peuvent guetter la défaillance, le signe, le mot qui trahira la véritable nature de cet imposteur, mais il reste jusqu'à la fin fidèle à lui-même. Dans la souffrance indicible, comme seul le crucifiement pouvait la dispenser, il demeure lucide, conscient de sa mission et de tout ce que les prophètes ont dit de lui. Aussi, lorsqu'il demande à boire, c'est afin que l'Écriture fût accomplie, car le prophète avait écrit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Après avoir pris la boisson acide, il dit « Tout est accompli. » Il pouvait considérer que tout ce qui avait été écrit à son sujet était réalisé. L'œuvre que son père lui avait donnée à accomplir touchait à son terme. Alors, librement, comme un homme qui se sent maître de donner son âme quand il lui plaît, il inclina la tête et rendit l'esprit. Mais avant cette seconde solennelle, on l'entendit encore s'écrier d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cette dernière parole, comme la première, fait encore et toujours appel au Père de qui il se proclame le Fils. L'œuvre de la croix est achevée, et le chemin de la rédemption ouvert à toutes les familles de la terre. La rançon du péché était payé. Quelques jours plus tard, retentira cet ordre glorieux, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Rappelons en conclusion que la foi qui sauve est celle qui s'exprime par l'action. La foi qui ne se réduit qu'à un raisonnement, une adhésion purement intellectuelle à la personne historique du Christ, n'est pas la foi que Jésus demande. Elle doit s'exprimer d'abord par le repentir, parce que le Christ est mort à cause du péché et tout homme est ainsi coupable devant Dieu. Puis vient l'immersion du baptême qui unit le pécheur au crucifié et à la gloire de sa résurrection. C'est ainsi que ce qui s'est passé à Golgotha peut devenir un événement personnel pour chaque homme. Chers amis, si vous le croyez, n'attendez plus pour exprimer votre foi comme il vous le demande. Et c'est lui-même qui vous ajoutera à son Église.